Radio Okapi.
Merci d'écouter Radio Okapi. Il est 18h à Kinshasa. Voici un nouveau journal. Révélation sur le présumé détournement de 138 millions de dollars américains au bénéfice de l'ancien président Joseph Kabila, selon l'enquête du Congo Hold Up. Le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya assure que la ministre de la Justice a saisi le parquet pour instruire le dossier. Le coordonnateur humanitaire à RDC se déclare inquiet de la multiplication des violences qui ciblent ces jours-ci les sites de personnes déplacées en Ituri. David Malklaklanka affirme qu'en vertu du droit international humanitaire, ces personnes doivent se sentir protégées. Notre invité, c'est Smith Etoumba, ce défenseur de la charte africaine de la jeunesse, parle du dialogue qui se tient à Kinshasa avec l'appui de l'Union européenne, de la MONUSCO et de la présidence de la République. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au micro, Pascal Masirika, mise en nom de Dieudonné Nyangasa. Justice pour commencer avec cette affaire de l'enquête Congo Hold Up. La BGFIBank s'est engagée à rembourser la somme de 43 millions de dollars américains utilisés. Annonce faite hier lundi à Kinshasa par le porte-parole du gouvernement congolais au cours d'un point de presse tenu conjointement avec son collègue de l'industrie. Congo Hold Up, c'est le titre d'une enquête qui a été menée par Mediapart et ses principaux partenaires, 17 médias dont Radio France Internationale et 5 ONG. Cette enquête porte notamment sur des révélations des présumés détournements de la somme de 138 millions de dollars américains du trésor public au bénéfice de l'ancien président Joseph Kabila. L'enquête incrimine également la BGFIBank. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a ajouté que la ministre de la Justice a saisi le parquet pour instruire le dossier. Et ces propos ont été recueillis hier par Paul Matendo.
Pour ce qui concerne la BGFIBank, aujourd'hui je ne dévoilerai pas un secret pour vous dire que des faits ont été reconnus. Il y a eu des discussions entre l'Inspection Générale des Finances, la Banque Centrale et la BGFI. Des faits qui se produisent, il faut dire, c'est depuis 2 ans, ils l'ont reconnu. Et il y a un accord. Aujourd'hui, la banque s'est engagée à rembourser la somme de près de 43 millions de dollars qui a été utilisée. Premier point. Il y a un autre volet de l'affaire qui se trouve déjà au parquet général. Le temps de la presse n'est pas le temps de la justice. Ça, c'est ce qui se passe pour ces dossiers-là. Dans un deuxième registre, au-delà du fait qu'il y a déjà ça qui a été fait, la ministre de la Justice a écrit au parquet le 20 novembre dernier, je pourrais mettre à votre disposition la copie de la lettre, où il a donné injonction aux fins d'enquête et des poursuites. Parce que nous ne pouvons pas, comme gouvernement, rester insensibles à de telles allégations.
En réaction, le PPRD, parti politique de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, a sur Radio France Internationale rejeté en bloc toutes ces allégations. Le directeur général de la Régie des Eaux s'est expliqué hier lundi à l'Assemblée nationale sur la pénurie chronique d'eau potable en RDC devant la commission de l'aménagement du territoire. Clément Moubiaï, qui n'a pas convaincu les députés nationaux, a sollicité 48 heures pour préparer sa réplique. Les députés nationaux juge inacceptable que la population congolaise soit privée d'eau alors que le pays est parmi les plus riches au monde en eau douce. N'est-ce pas, Michel Kifindangoy?
À en croire les députés nationaux, 30% seulement de la population congolaise ont accès à l'eau potable, alors que la Régie des eaux ne cesse de surfacturer la population sans améliorer la situation. José Egbanda, président de la commission aménagement du territoire.
Depuis que nous avons commencé cette législature, ces mêmes problèmes se posent. Il y a ça et là prolifération de bornes fontaines, alors que la Régie des eaux est là. Et nous avons même peur qu'il y ait aussi prolifération des maladies, des sources hydrique.
Le vice-président de la sous-commission ressources hydrauliques parle d'un problème managérial qui bloque la Régie des eaux.
On ne peut pas se dire être des lions sacrés et avoir des incompétents à la tête des entreprises. On ne peut pas comprendre que la Régie des eaux va continuer à pleurer. Pendant qu'il y a la population qui reçoit des factures, on essaie de comprendre où va cet argent. On n'a pas de réponse.
Le DG de la Régie des eaux dit avoir enregistré plusieurs questions pertinentes qui nécessitent un approfondissement.
La problématique, c'est la desserte en eau et la satisfaction de la Régie des eaux vis-à-vis de la population, puisque c'est elle qui s'occupe de cette eau.
Avant de solliciter 48 heures, Clément Moubiaï a justifié la pénurie d'eau par manque d'électricité, argument jugé de fantaisiste par les députés.
On reste à Kinshasa où plusieurs chauffeurs des transports en commun dénoncent les tracasseries de la police de circulation routière. Ils affirment que des policiers leur arrachent quotidiennement les plaques d'immatriculation et les agents du ministère des Transports inventent des infractions même si les chauffeurs présentent tous les documents de bord. C'est pour cela qu'ils ont observé hier lundi un mouvement de grève rendant ainsi difficile la circulation dans la capitale. Certains chauffeurs se sont confiés à Blaise Shindani Kambala.
Nous sommes chauffeurs responsables. Nous ne sommes esclaves de personne. Nous sommes devenus les esclaves des agents du transport et des policiers. Ils nous arrachent des plaques d'immatriculation comme si nous n'étions pas congolais. C'est pourquoi nous demandons aux autorités du pays de voir ce problème car à l'allure où vont les choses, ce n'est pas bon pour l'avenir. Nous voulons qu'ils nous respectent comme nous les respectons aussi. Les policiers nous traitent comme des animaux, comme leurs enfants. Ils nous brutalisent et nous arrachent les plaques. Nous ne savons pas dans quel monde arracher une plaque est une chose normale. Nous avons un grand problème. Nous n'avons pas travaillé parce que il y en a marre. Trop de tracasseries. Les agents des transports, après lui avoir présenté tous les documents, il invente une infraction imaginaire. Comme moi là, on vient de m'arracher ma plaque. Je suis obligé de les suivre pour la récupérer. Nous avons refusé de travailler à cause de tous les abus de la route par les policiers de roulage et les autres. Nous en avons marre. On n'a jamais vécu de tracasseries
Et puis cette bonne nouvelle pour les voyageurs de Mbujimayi en partance pour Kinshasa ou Lubumbashi. Désormais, ils ont droit à 20 kilos de bagages dans la soute, 5 kilos à main. Tous se disent satisfaits de la levée de la mesure qui accordait seulement 5 kilos aux voyageurs de CAA. Un reportage d'Esther Dalafina.
Voyager par vol de la compagnie africaine d'aviation CAA n'est plus un casse-tête comme par le passé, affirment les voyageurs. La compagnie accorde désormais 20 kg de bagages en soute et 5 kg de bagages en main, comme nous le confirme ici Michel Kayembe, chef d'escale de CAA, bureau de Mbujimayi.
Sur Mbujimayi, sur Kinshasa, moi ça donnait 20 kg en soute et 5 en main. La province a demandé, le patron a autorisé, il n'y a aucun problème. Trois fois par semaine, chaque lundi, Kinshasa, Mbujimayi, Kinshasa. Chaque mercredi, Lubumbashi, Mbujimayi, Mbujimayi, Kinshasa, Kinshasa, Mbujimayi, Mbujimayi, Lubumbashi. Chaque vendredi, Lubumbashi, Mbujimayi, Mbujimayi, Kinshasa, Kinshasa, Mbujimayi, Lubumbashi.
Les voyageurs trouvés à l'aéroport se réjouissent. C'est le cas de Kasenga.
Nous avons une immense joie. Ça nous permet quand même de nous déplacer avec nos marchandises. Bon, on partait main vide. Pour retourner encore main vide, nous sommes très contents.
L'étudiant congolo n'a pas caché son enthousiasme.
Nous sommes très contents dans mes 20 kilos là. Je peux payer même la marchandise que j'ai amenée à Kin là-bas. Je peux amener à ma famille, même les habits.
Signalons que les 20 kilos de bagages en soute avaient été supprimés juste après les négociations autour de la baisse des tarifs d'avion entre le gouvernement congolais et les transporteurs aériens. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Le reste de l'actualité sur Radio Okapi. Le coordonnateur humanitaire en RDC dénonce les nouvelles attaques contre les civils en Ituri. Dans un communiqué publié ce mardi, David Maklaklankar s'est dit inquiet de la multiplication des violences qui ciblent principalement les sites des personnes en refuge. En vertu du droit international humanitaire, ces personnes doivent se sentir protégées. Il demande par conséquent aux parties au conflit de s'y conformer. Explication d'Alain Irungmouchiche.
Selon ce communiqué, entre vendredi 19 et dimanche 21 novembre dernier, le site de personnes déplacées de Tché dans le territoire de Djougou en Ituri, abritant près de 3700 personnes, a été attaqué. Le village de Drodro et le site de personnes déplacées installées dans l'enceinte de l'église ont été également pris pour cible, causant la fuite de plus de 16 000 personnes vers la localité voisine de Roé. En l'espace de 48 heures, le site de personnes déplacées de Roé, qui comptait initialement plus de 20 000 personnes et ses alentours, ont accueilli près de 50 000 nouveaux arrivants. L'accès humanitaire s'est réduit de manière considérable ces dernières semaines dans le territoire de Djougou, entraînant la suspension des mouvements de 17 organisations humanitaires et affectant l'accès de près de 320 000 personnes à une aide vitale et urgente à Drodro, Fataki, Nizi, Lita, Bambou et Mangala, souligne le communiqué. La population de la province de l'Ituri est victime de l'augmentation des violences. Il est impératif que les acteurs humanitaires puissent apporter une assistance assistance sans entrave dans le respect des principes humanitaires, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. J'en appelle aux autorités congolaises afin qu'elles redoublent d'efforts pour assurer la protection des populations civiles, a conclu le coordinateur humanitaire.
Merci Alain Irung pour ces précisions. Et puis au Sud Kivu, la société civile environnementale plaide pour que le nettoyage soit étendu au parc national de Kahuzi-Biega où se cachent des miliciens. C'est l'une des recommandations faites par Josué Aruna, président de la société civile environnementale, dans une déclaration de cette structure citoyenne au sujet précisément des opérations militaires dans les zones du parc de l'Emera et de Katasomwa. À Bukavu, Michel Chirimwami.
Une conférence de presse pour expliquer la position de la société civile vis-à-vis de ces opérations qui ont lieu dans les zones du Penkabé et pour déloger ceux-là qui y détruisent la faune et la flore et qui méritent d'être mis devant les juges. Josué Aruna exige un regain des forces pour cette action dans les villages riverains du parc contre ceux qu'il appelle les braconniers en cravate.
Nous avons demandé de renforcer les services de renseignement dans les villages riverains du parc national de Kahuzi-Biega, mais rendre aussi effectif et opérationnel la présence des militaires dans tout le village riverain du parc national de Kahuzi-Biega et d'identifier les braconniers en veste qui soutiennent cette destruction du parc national de Kahuzi-Biega et de les arrêter et qu'ils soient transférés devant les juridictions compétentes de la République afin qu'ils répondent de leurs actes devant les autorités compétentes.
La société civile environnementale du Sud Kivu met en garde les personnes qui entrent dans le parc contre la paix dans cette région.
Et voilà pourquoi nous mettons en garde toute personne physique ou morale qui tenterait de se déguiser au niveau de la population, ou soit d'utiliser la communauté riveraine en termes d'être bouclier pour la déstabilisation ou bien pour la destruction et l'exploitation continue des ressources naturelles à l'intérieur du parc national de Kahuzi-Biega. De telles personnes, une fois dénichées, devront répondre de leurs actes devant les institutions compétentes.
Bukavu, Michel Chimwami, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi le début ce mardi à Beni au Nord Kivu de l'instruction du dossier de l'officier des FARDC à la base des échauffourées qui ont éclaté lundi dernier à l'Institut Bungulu. Bilan, 5 policiers et 5 élèves blessés. L'auditorat militaire de la garnison poursuit cet officier pour coups et blessures volontaires. Radio Kapi Beni, Martial Papi Mukeba.
Il s'agit d'un lieutenant-colonel, commandant en charge des renseignements du 34-02e régiment des FARDC, basé dans la localité de Ringeti, dans les territoires de Beni. Il a été arrêté lundi et placé en détention à l'auditorat militaire des garnisons de Beni, suite aux échauffourées qui ont eu lieu à l'Institut Bungulu. Selon des témoins, l'officier s'était rendu dans cet établissement scolaire et sans s'adresser aux autorités scolaires, s'était introduit dans la salle des classes où étudie son enfant. Il se serait mis à tabasser un enseignant, ce qui a déclenché la colère des élèves qui se sont soulevés. L'officier, accompagné de son garde du corps, s'était rendu dans cette école pour récupérer des forces les téléphones de son enfant saisi l'année dernière. L'utilisation des téléphones portables est interdite dans l'établissement scolaire pendant les cours. L'enfant de l'officier ayant enfreint les règlements, son portable avait été saisi. L'enseignant qui a été roué des coups sera auditionné aujourd'hui au parquet. Selon des sources judiciaires, la cour militaire du Nord Kivu siégera prochainement en forêt à Beni pour juger cet officier de l'armée congolaise. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Notez qu'à cause de cet incident, les activités sont restées paralysées aujourd'hui, mardi, dans les écoles de Beni. Les enseignants ont suspendu les cours jusqu'à ce que ce militaire des FARDC soit jugé. Et puis le tribunal militaire de Goma s'est finalement prononcé sur sa compétence à juger les deux artistes musiciens originaires de Beni. Il s'agit de Delphin Katembo et Mouissan Zanzou, poursuivis pour offense au chef de l'État et démoralisation des FARDC. La décision annoncée le week-end dernier est liée notamment à l'exception qui a été soulevée par leur conseil lors de la première audience devant cette juridiction. À Goma, Gabriel Ouamenia.
Selon les conseils des prévenus, les tribunaux militaires de garnison de Goma étaient incompétents de juger ces deux musiciens. Dans les jugements d'avant-dire droit rendus ce week-end, les tribunaux militaires de garnison de Goma a fondé sa conviction sur la loi organique du 2013 et de l'article 98 du code judiciaire militaire. Ce dernier article stipule que les détenus peuvent être jugés par la juridiction militaire du lieu où ils sont détenus. Selon le président du tribunal, le major magistrat Samson Lazare, ces deux dispositions légales donnent ipso facto la compétence au tribunal militaire de Goma de juger ces deux mélomanes. Signalons que la première audience d'introduction dans cette affaire qui oppose les ministères publics aux prévenus Delphin alias Idengo et Mouissa Nzanzou est prévue ce vendredi. Pour la petite histoire, ils auraient organisé des concerts l'un à Butembo et l'autre à Arua au nord de l'Ouganda où ils auraient publié des chansons contenant des propos blasphématoires contre les institutions du pays. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, le convoi militaire français qui est bloqué depuis jeudi dernier par des manifestants attend toujours dans un camp militaire situé à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Les tractations se poursuivent en ce moment entre les autorités burkinabées et les manifestants pour ainsi permettre au convoi de reprendre sa route. Des violents orages frappent l'Égypte et causent la fermeture des écoles et des routes dans tout le pays. Depuis deux jours en effet, tempêtes, éclairs et fortes pluie perturbe les quotidiens des Égyptiens dans plus de 10 provinces du pays. Les établissements scolaires du Caire, la capitale, et ceux du nord du pays ont été fermés carrément par mesure de prévention. Et puis la France a appelé ce mardi après-midi ses ressortissants à quitter sans délai l'Éthiopie où des combats se rapprochent davantage de la capitale après plus d'une année de guerre entre forces gouvernementales et les rebelles au nord du pays. Annonce fait par l'ambassade de France à Addis Abeba dans un courriel qui a été envoyé aux membres de la communauté française.
L'invité.
Notre invité, c'est Smith Etoumba. Ce membre du bureau de l'envoyé spécial et défenseur de la charte africaine de la jeunesse parle du dialogue qui se tient à Kinshasa du 22 au 26 novembre avec l'appui de l'Union européenne, de la MONUSCO et de la présidence de la République. Il s'entretient avec Honoré Missenga Kalala.
Monsieur Smith Etoumba, bonjour.
Bonjour monsieur Honoré Missenga.
Monsieur Smith, il est prévu la tenue à Kinshasa des assises appelées dialogue intergénérationnel. C'est quoi exactement ce dialogue et quel en est l'objectif?
Les dialogues intergénérationnels, ce sont des assises des jeunes et des autres générations. Mais ce sont souvent des assises qui visent à intégrer les jeunes dans l'espace des prédécisions et qui visent à voir le jeune et la génération avant celle des jeunes échanger autour d'une table sur plusieurs questions de la vie dans différents secteurs.
Comme quoi, par exemple?
Au départ, nous avons pris 9 thématiques qui feront l'objet des discussions, notamment la démocratie, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la paix, la sécurité, la prévention de conflits. Nous allons parler de tous les instruments qui régulent, en fait, sur le plan mondial, les questions de jeunes et de bien-être social, notamment les objectifs du développement durable, l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous allons parler aussi de la résolution 2050, ce qu'on appelle la résolution jeune pour la participation de jeunes. Il y a également d'autres questions que nous allons ajouter dedans, comme la charte africaine de la jeunesse, qui est notre leitmotiv. Nous avons la participation, l'engagement des jeunes. Nous avons les genres et l'inclusion. Nous allons parler de la santé en général, y compris la santé sexuelle et reproductive, également la COVID-19. Nous allons parler des arts, sports et aussi de la culture. En y ajoutant quelque chose sur le patrimoine également. Il est prévu que nous parlons de l'éducation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc c'est un peu de tout de ces secteurs-là que nous allons discuter autour du dialogue intergénérationnel pour voir en quoi est-ce que les jeunes peuvent fortement ou fermement y apporter des solutions dans soi pays.
Alors ces jeunes et ces autres générations vont venir d'où?
Nous allons impliquer les leaders religieux. Nous allons impliquer les décideurs tout d'abord, qui constitue une bonne représentation de l'autre génération dont il est question, parce que si on parle des décideurs et nous cherchons à intégrer l'espace des prédécisions, cela veut dire que nous devons collaborer avec ceux qui sont aux affaires. Nous allons aussi parler avec les leaders de la société civile dans l'ensemble. Les leaders coutumiers seront là, et d'autres leaders de la culture congolaise dans l'ensemble. Nous allons prendre les jeunes dont l'âge varie entre 15 à 18 ans. Il y a une représentation, surtout une bonne figure de cette catégorie, c'est Monsieur Jason, le jeune élève de Beni. Il y a la présidente du Parlement d'enfants du Nord Kivu. Il y a également des jeunes de 19 à 25 ans qui vont venir de différentes provinces. Il y a également des jeunes qui font l'interface au niveau national et au niveau provincial qui sont des conseils nationaux de la jeunesse.
Un sommet de quel format?
Pour l'instant, le sommet est appuyé principalement par l'Union européenne. qui a souhaité qu'on ait un peu plus de 125 participants pour ce sommet. Nous n'allons pas ignorer la présence de la présidence de la République ici à travers le panel qui accompagne le président de la République à sa mandature à l'Union africaine. Et le panel au nom du président de la République a souhaité à ce que nous ajoutions 75 autres participants que la présidence prendra en charge. Donc nous irons à un format de 200 participants inscrits et nous aurons aussi des invités supplémentaires. Au-delà de ça, il y a plusieurs entités, notamment des organisations internationales qui appuient des dialogues.
Oui, vous avez aussi pensé à la dimension genre.
La dimension genre est là. Parmi les quotas de participation que nous avons établis, nous visons 60% de femmes et de filles dans la participation au dialogue. Et à ce moment, nous avons quand même une satisfaction telle que, après les compilations, la participation des femmes et des filles a été tellement prise en compte.
Et vous avez aussi pensé à la jeunesse étudiantine.
Oui, nous avons pensé à la jeunesse étudiantine. La majorité des participants sont des étudiants. C'est une jeunesse qui prend en main les choses. Et nous vous rassurons que ça sera un débat de la crème intellectuelle congolaise. Et à ces débats-là, non seulement qu'on aura la majorité des participants état des étudiants, mais nous avons approché le comité de l'UNIKIN et nous avons été en contact avec le président et à travers la ministre de l'entrepreneuriat du comité du gouvernement des étudiants de l'UNIKIN. Aussi, d'ailleurs, ont émis le vœu de travailler comme des volontaires. Ils ont recommandé une liste des étudiants qui nous aideront comme des volontaires. C'est ça leur manière de s'approprier de l'événement.
Monsieur Smith Etumba, merci.
Merci beaucoup, cher Honoré Missenga.
C'était l'invité de Radio Okapi, Smith Etumba, le membre du bureau de l'envoyé spécial et défenseur de la charte africaine de la jeunesse qui était interrogé à Kinshasa par Honoré Missenga Kalala. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir écouté. Merci infiniment à Élisée Tshikota Mwamboui qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale dans la Erong Mouchige. Retrouvez cette édition sur www.radiookapi.net.